RCFM, Christina Luzzi, les experts.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Christina Luzzi, je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée. Nous serons ensemble du lundi au vendredi de 9h30 à 11h pour traiter de sujets aussi divers que variés dans les experts. Alors n'hésitez pas à me communiquer des sujets que vous souhaiteriez que l'on aborde. Cette semaine on va parler rentrée bien sûr, mais on parlera également alimentation végane, un sujet aussi qui anime cette rentrée 2019, les retraites. On parlera de la mode des tatouages aussi, du détatouage. Et n'oubliez pas que nous sommes en direct, vous pouvez d'ores et déjà nous faire passer toutes vos questions sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM ou au 04 95 32 22 22.
Les experts, 9h30, 10h30, Christina Luzzi.
Don't stop me now, Queen, sur RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Moins nombreux à redoubler, plus souvent titulaires d'un bac S, achevant mieux leurs études supérieures. Les enfants d'enseignants réussissent mieux leur scolarité que les autres. D'ailleurs, la moitié des étudiants à l'ENA ont au moins un parent prof. Ce constat, validé par de nombreux travaux sociologiques et données statistiques, n'a pourtant jamais été disséqué. Alors pourquoi ces élèves connaissent-ils une meilleure scolarité? Leurs parents payent-ils de meilleurs cours particuliers? Savent-ils refaire mieux que d'autres les exercices de maths ou réciter les déclinaisons allemandes? Aujourd'hui, on vous dit tout avec nos expertes et on va peut-être vous donner des clés pour que vos enfants aussi réussissent très très bien à l'école. On accueille tout de suite Guillaume Etfort et Louise Touré, les auteurs de « Pourquoi les enfants de profs réussissent mieux à l'école » aux éditions Les Arènes. Bonjour les filles.
Bonjour.
Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein, parce que ça passionne sur les réseaux sociaux. J'ai déjà reçu pas mal de messages. D'ailleurs, si vous voulez encore poser des questions à nos deux expertes, n'hésitez pas, 04 95 32 22 22 ou en message privé sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM. Alors les filles, votre travail est basé sur de nombreuses rencontres, hein, je vous le disais dans mon introduction, d'enfants de profs. On apprend bien sûr que Édouard Philippe en est un dans votre ouvrage, mais aussi sur des travaux sérieux, comme la thèse d'Anne Hilas. Ce livre va au-delà vraiment des apparences pour mettre en avant un rapport à l'école et à l'autorité qui fonde la réussite des enfants de profs. Alors, est-ce que ces secrets sont transmissibles aux parents lambda?
Si je peux commencer,
oui.
Je pense que nous montrent les travaux des chercheurs et ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, c'est que oui, il y avait beaucoup à prendre dans la manière dont les enseignants envisagent l'éducation, parce que finalement, ça repose pas sur la connaissance très fine des programmes ou de l'école, mais ça repose plutôt sur la manière de considérer l'éducation comme quelque chose qui est continu entre l'école et la vie, et puis un respect, et c'est ce que raconte par exemple Édouard Philippe, un respect pour l'école et les enseignants. Ça, on peut tous s'en inspirer.
Donc vous pensez que c'est vraiment ça la clé, enfin la première des clés, on va dire?
Si je peux rajouter, ce qui nous a frappé, c'est parce que on pense comme ça, spontanément, on se serait dit, mais qu'est-ce qu'ils font en plus que nous, les parents, j'allais dire les parents normaux, on ne fait pas? Et ce qui nous a très vite frappé, c'est ce qu'ils font aussi en moins. C'est-à-dire que les parents profs, par exemple, donnent très peu de cours particuliers à leurs enfants. Et c'est pas parce qu'ils maîtrisent les programmes, parce que quand on est enseignante en maternelle, on ne sait pas forcément calculer des intégrales et des cosinus.
On ne maîtrise pas le programme du bac S.
dans l'idée que ce qui compte, c'est d'apprendre l'autonomie aux enfants, et parce qu'ils exploitent aussi les occasions du quotidien. Et dans les choses qu'ils font en moins, comme ça, par exemple, les parents profs sont pas des obsédés des devoirs des vacances. Ils vont pas.
On va parler devoirs tout à l'heure d'ailleurs.
D'aller en pension parce que ça leur donnera un cadre. Enfin, il y a des choses où ils vont pas passer des heures sur Internet à chercher la meilleure école privée. On s'est aussi intéressé à ce qu'ils faisaient en moins que les autres.
Et justement, juste une question comme ça qui m'effleure, mais vous êtes journalistes toutes les deux, pourquoi avoir eu envie d'écrire cet ouvrage, justement? Vraiment pour donner des clés aux parents lambda?
Alors justement, le livre, il est né de ma rencontre avec Louise au moment où j'écrivais Le meilleur pour mon enfant, qui était déjà aux éditions des Arènes. Et j'avais rencontré Louise, qui à l'époque produisait sur France Culture l'émission Rue des Écoles.
Rue des Écoles.
Et Louise m'a dit, mais moi, un jour, j'aimerais écrire un livre qui s'appellerait « Élève ton enfant comme un prof ». Et on a un peu changé le titre.
Et pourquoi ?
On avait peur qu'un titre « Élève ton enfant comme un prof », ça donne l'impression qu'on allait faire des mini-profs et des premiers de la classe. Et c'était pas notre sujet. Et c'est pour ça qu'on a aussi voulu donner la parole à des gens comme Thomas Pesquet, Romain Bardet, Aurel San, enfin des gens qui correspondent pas, parce que là, Édouard Philippe, c'est vrai qu'il est, c'est très intéressant ce qu'il dit, mais il a aussi un petit côté premier de la classe. Mais le roman
oui, c'est
de
vrai.
Michel Lucie ou la chanteuse Camille, il parle aussi en tant que, ou même l'auteur de BD Jules, il parle aussi en tant qu'enfant de prof, et ils sont convaincus d'avoir été marqués par cette enfance-là.
Alors, si je peux ajouter quelque chose, il y a des témoignages de sportifs aussi.
Oui.
Il y a Romain Bardet, un super champion. C'est une autre manière d'être premier, mais moins scolaire. Et pourtant, il dit à quel point la rigueur, mais aussi un regard sur la vie apportée par ses parents a compté pour lui. Johan Bourcuff aussi, c'est un joueur de foot qui est,
oui,
qui est pas dans le bouquin, mais qui est fils de prof de maths et son père est aussi entraîneur. Bref, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce livre, c'est de montrer que la confiance en son enfant est primordiale, mais aussi la confiance dans l'école. Et en tant que journaliste d'éducation, ça fait 10 ans que je suis sur France Culture, je parle de la question de l'école, de la transmission du savoir. On a vu monter une défiance envers l'école, c'est ce que disait Guillemette, c'est avoir recours à des écoles qui coûtent parfois 1000 euros par mois en pensant que ça va régler tous les
même
problèmes.
Même plus, alors, oui.
Oui, bon après, le choix de l'école est évidemment libre et ça, c'est pas quelque chose que
bien
je
sûr
critique. Mais avant de recourir à des solutions comme ça qui sont tout de même déjà très coûteuses, avec des écoles loin, des choix comme ça qui sont cornéliens sur quelle scolarité choisir, on peut choisir une forme de confiance. L'école n'est pas parfaite, loin de là, mais elle n'est pas affreuse non plus. Il faut savoir un petit peu lâcher. La confiance, c'est vraiment ce qui va permettre d'aborder les choses d'une manière qui fera plus progresser que cette espèce de défiance qu'on voit monter, qui finalement nourrit un doute qui, à mon avis, n'est pas favorable aux apprentissages.
Alors, on va prendre la première question d'une auditrice, Caroline, qui nous demande « Que mettons derrière le mot réussite ? Le nombre d'années d'études, la classement de l'école ou de la fac qu'on fréquente ou faire ce que l'on a envie de faire ? Prendre le temps de trouver son chemin en prenant parfois le chemin des écoliers ?» Alors, il y a un petit mot dans votre livre là-dessus, je vais vous laisser répondre.
Oui, effectivement, on s'est posé la question parce que le mot réussite, il a tendance un peu à braquer. Et quand on posait la question aux enseignants, il y avait toujours un petit moment d'hésitation. Mais en fait, les études qu'on cite, il n'y a pas une étude, il y a un faisceau d'études qui vont dans le même sens. Ça peut être le fait d'arriver à la fin de primaire sans redoubler, le fait de ne pas redoubler dans le secondaire, le fait qu'ils soient plus nombreux dans les filières scientifiques. Mais effectivement, la définition de la réussite, elle va bien au-delà, parce qu'on a dans un des derniers chapitres, on parle par exemple du fait que les enfants d'enseignants ont moins de conflits avec leurs parents. Donc ça, c'est aussi quelque chose, ça fait aussi partie, du bonheur que d'avoir aussi une relation familiale plus apaisée. Ça va être aussi, c'est aussi pour ça justement qu'on a cherché à interroger des gens dans tout type de secteur, parce qu'on ne voulait pas donner l'impression que l'idée, c'était d'être premier de la classe toute sa vie. Et quand des gens comme justement, quand des artistes parlent de leur enfance avec des parents profs, justement, ils montrent que toutes les voies sont possibles et que finalement, la façon dont on a aiguillé leur curiosité pendant l'enfance va les porter dans tous les domaines qu'ils peuvent rencontrer. Mmh. Aurel San, par exemple, ou Lise Lucet, leurs parents disent qu'ils étaient pas très bons à l'école, mais qu'ils ont toujours beaucoup lu, que quand ils ont voulu écrire, ils ont compris que l'éducation permettait d'être libre d'une certaine manière.
Oui, parce
donc,
que c'est vrai que
c'est une vision plus large du mot réussir.
Donc là, on dresse un tableau assez idyllique de l'enfant de prof, mais il y a aussi des enfants de prof qui ne réussissent pas.
Bien sûr, parce que ça, on en entendait parler tout le temps. Mais justement, pour rigoler, on mentionne une chercheuse qui a voulu travailler sur le sujet de l'échec des enfants de prof. Et qui finalement a laissé tomber, a élargi son sujet parce qu'elle avait quand même du mal à en trouver. Et en fait, leur définition de l'enfant en échec est pas exactement la même que, j'allais dire, que pour nous, les parents non profs aussi.
Ah. Alors après, il y a échec et échec. Hein. On retrouve pas d'enfants de prof parmi, très peu, parmi les 110 000, 120 000 décrocheurs par an. On retrouve pas forcément d'enfants de prof parmi les gens qui vont pointer aux missions locales parce qu'ils n'ont ni diplôme ni perspective. Réussir, ça peut être aussi choisir la voie professionnelle avec un projet des perspectives derrière, savoir que aussi on peut se former toute sa vie. Puisque
tout à fait. On se forme toujours. On continue.
C'est ça, réussir, c'est avoir un rapport heureux au savoir et aux apprentissages qui sont évidemment hyper divers et qui ne se résument pas au savoir scolaire, ce que savent les enseignants et ce qu'ils disent dans le livre.
C'est ce que ça fait forcément les parents lambda. Alors, est-ce que la réussite, on revient là-dessus, mais la réussite des enfants d'enseignants, elle n'est pas liée, je dirais, au capital culturel de leurs parents ou c'est aussi une attitude par rapport à la connaissance, quelque part ?
Alors, le capital culturel, on va pas se voiler la face, évidemment, c'est super important. Mais ce capital culturel, les cadres l'ont aussi. Il y a plein de professions, les diplômés sont de plus en plus nombreux en France, ils font des enfants, et parmi ces diplômés, les enseignants gardent un avantage.
Parce qu'on voit dans votre livre que les enfants de profs, ils font mieux que les cadres, que les enfants de cadres supérieurs, par exemple.
Voilà.
Qui, eux, dépensent des fortunes pour les mêmes résultats.
Oui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources financières, exactement. Oui, alors, pardon, je vous ai coupé, du coup.
Le capital culturel va compter, mais c'est vrai sans capital économique. Après, Il y a des choses dont on peut s'emparer. Alors, il y a d'autres études, là, on déborde un peu du bouquin, qui expliquent, c'est des études de l'OCDE. Vous savez, c'est une étude qui s'appelle PISA, sur la réussite des élèves de 15 ans. Et en fait, on montre que avoir une discussion tous les jours avec les enfants, très régulièrement, pas forcément sur l'école, hein, sur ce qu'ils ont fait en classe, mais en général, sur la vie, les gens qu'on connaît, voilà, prendre le temps de se parler, déjà, ça fait une différence.
Ben oui.
Et on parle même pas de lire une histoire régulièrement à son enfant, voilà, prendre le temps d'être ensemble et de communiquer, ben ça, ça agit vraiment sur la réussite des enfants, leur capacité à s'exprimer, à prendre la parole en classe. C'est des choses évidemment qui comptent. Et bien sûr, tout le monde ne va pas s'en emparer pareil. Mais on peut y réfléchir à la fois individuellement et à la fois collectivement.
C'est-à-dire oui, donc que, quand on mange, plutôt que d'allumer la télé, parler avec ses enfants.
Oui, et puis, ça peut aussi concerner les grands-parents. Enfin, c'est, voilà, c'est une attitude qui peut traverser la société, il n'y a pas que les parents.
Non, non, bien entendu. Mais alors, donc du coup, je vais revenir là-dessus, hein, mais votre travail, il est vraiment parti d'un échange avec Madame Loiseau, qui était à l'époque directrice de l'ENA, et qui vous disait que la moitié de ses élèves avaient un parent prof. C'est une fatalité pour vous ?
Oui, en fait, ce qu'elle disait, c'était justement toujours dans au moment où je faisais ce premier livre sur Le meilleur pour mon enfant, c'est qu'elle, ce qu'elle disait... c'était que les élèves de l'ENA n'étaient pas les élites qu'on imaginait. Et quand elle disait, il y en a près d'un sur deux qui a des parents, qui a au moins un parent prof, ce qu'elle voulait dire, c'est que finalement, et c'était le point de départ du livre, c'est que au lieu de se dire, genre, mais en fait, c'est des pistonnés, les enfants de profs, se dire, mais finalement, c'est les dernières classes populaires pour qui l'éducation et la mobilité de l'ascenseur social fonctionnent encore.
Malgré des ressources financières assez limitées.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont pas, les parents enseignants, ils vont pas flamber un mois de salaire en séjour linguistique. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'ils font de plus? Donc, je vous ai dit qu'après, on avait trouvé aussi ce qu'ils faisaient de moins.
De moins.
Et il y avait plein de réponses clichés qui circulaient, puisque peu de gens avaient étudié ça sérieusement. Par exemple, la question du temps, de dire, ah ouais, mais évidemment, ils ont plus de temps.
Mais est-ce qu'ils travaillent plus ou pas à la maison?
Par exemple, ils passent moins de temps sur les devoirs que la plupart des parents. Et des choses qui sont assez vilipendées, par exemple, le fait de ramener du boulot à la maison, on se rend compte aussi que les enseignants sont ceux qui ramènent, c'est une des professions qui ramène le plus de travail à la maison et qui a pas honte de travailler dans ses enfants. Donc en fait,
je peux vous assurer que vous êtes journaliste, hein, vous le savez, nous aussi on travaille, hein, c'est aussi à la maison.
Pardon.
On est journaliste, on sait qu'on travaille à la maison, hein. Nous aussi.
Ouais. Non mais je veux dire par là que le fait de dire oh travailler chez soi c'est mal, ben finalement c'est aussi l'occasion de transmettre une routine de travail à des enfants, le fait de vivre sur le même temps. C'est important aussi. Donc on s'est rendu compte comme ça qu'il y avait c'était beaucoup moins cliché que ce qu'on pouvait imaginer.
Donc c'est donc bien.
Et en ce moment, il y a aussi la façon, particulièrement en ce moment à la rentrée, la façon dont on parle de l'école. C'est-à-dire que
j'allais y venir.
Tous les jours avant la rentrée, alors pas trop dur de retourner à l'école. Quelle image on porte de l'école quand on dit ça?
Oui, bien entendu.
Et puis, la fameuse valeur travail chez certains hommes politiques. En fait, les enfants de profs, ils le racontent des témoignages. Ils voient beaucoup leurs parents travailler. Les instituts de maternelle, comme les professeurs du second degré. Ben voilà, les enfants savent bien que c'est du travail et que ces enseignants parlent beaucoup de leurs élèves. En fait, ça donne du sens au travail.
Ouais, ça crée quelque part une émulation.
Oui, je pense.
Et donc, c'est bien à la maison que la différence se fait et pas à l'école.
Mais on passe seulement, quand on est élève, on passe seulement 15% de son temps éveillé à l'école. Et donc ça, je pense que les enseignants en sont particulièrement conscients parce qu'ils voient que leur semaine file. Et donc ils vont plus utiliser le temps libre pour transmettre d'autres choses. Ça peut être de demander de doubler les proportions dans une recette de cuisine. Ça peut être le moment de dire d'aller faire les courses et dire tiens tu vas écrire la liste des courses. Enfin, ils utilisent toutes ces petites choses du quotidien. Alors que les parents qui n'ont pas de profs, ils ont tendance à penser que toute l'éducation ça se fait par l'école. Alors que finalement, c'est un temps très très réduit, le temps passé sur les bancs scolaires.
Bien sûr. On lit dans votre livre que tous vos témoins se souviennent qu'il y avait beaucoup de livres chez eux et qu'ils voyaient leurs parents lire et qu'ils se sont donc mis à la lecture sans qu'on les y force, comme on peut forcer nos enfants. Est-ce que c'est important dans la recette de la réussite, la lecture ?
Mais c'est marrant parce que j'entendais hier justement une interview de Cédric Villadi qui disait il y avait beaucoup de livres chez moi. Et je me suis dit, c'est marrant.
C'est ce que j'ai écrit.
Ils ne disent pas on m'a fait lire ou on m'a demandé de lire cette chose, mais il y avait des livres autour de moi. Donc c'est très différent de dire tu vas lire que de créer un environnement où il y a plein de choses accessibles.
Donc dans la salle de jeu, une grande bibliothèque avec beaucoup de livres.
Ah, on peut avoir des livres chez soi, on peut aussi emmener ses enfants à la bibliothèque ou les laisser à la bibliothèque. Les enseignants sont des gros utilisateurs des services publics, ça marche pour le sport, ça marche pour les bibliothèques et ça c'est... Bon, on n'en a pas toute une à côté de chez soi, mais on peut aussi essayer de demander aux mairies d'avoir des bibliothèques accessibles dans les villes pour les enfants. Voilà, ça peut aussi passer par là.
Voilà, en période préélectorale, faites vos demandes.
Et ne pas forcément attendre que les enfants soient couchés pour lire. Quoi. Parce qu'en fait, quand on est adulte, il y a plein de points de repère qu'on va leur donner par nos propres comportements. Donc si nous, on a plaisir à lire, on a plus de chances de leur transmettre ça.
Bien sûr. On parlait tout à l'heure aussi de la confiance que peuvent avoir les parents de profs. On parlait tout à l'heure des réunions parents-profs en off. On me disait que les parents-profs se rendaient différemment dans les réunions parents-professeurs et qu'ils avaient une autre approche. Est-ce que, justement, la clé de la réussite, elle ne viendrait pas du fait que les parents ont une bonne relation avec les enseignants de leurs enfants? Est-ce que ce n'est pas un simple réflexe corporatiste, est-ce que c'est vraiment une véritable confiance qu'ils ont?
Alors, bonne relation. Là, justement, comme s'ouvre la saison des réunions d'information de l'école, c'est intéressant à savoir parce que, par exemple, un prof nous disait en rigolant le parent qui pose la question de la classe verte ou de la sortie de fin d'année, c'est jamais le parent-prof. Alors que celui qui va s'intéresser, qui va poser des questions sur les options, ça va être plus souvent le parent d'élève. Donc, il reste plus sur les fondamentaux. Sur le fait de critiquer les enseignants, et c'est vrai qu'on a une institutrice qui nous disait, j'ai l'impression quand je vais chez des amis, dans que systématiquement on découpe la maîtresse à l'apéritif. ce qu'elle voulait dire par là, c'est que les parents commencent l'année en disant « Ah tiens, mon fils est bien tombé ou ma fille est mal tombée », comme si c'était l'enseignant des élèves qui allait décider de leur scolarité. Alors que quand Édouard Philippe dit que lui, il n'avait pas le droit de critiquer les enseignants, c'est pas un réflexe corporatiste, c'est de dire que les parents font passer aux enfants l'idée que leur scolarité, elle dépend d'abord d'eux. Et que de dire j'ai eu 10 parce que mon prof est dépressif ou parce qu'il m'aime pas, etc. On leur apprend que de toute façon, il faudra faire avec. Quoi.
Puis les notes, je lisais dans votre livre que les notes chez les enseignants, elles ont une connotation complètement différente de ce qu'elles peuvent avoir chez nous, propres parents lambda, entre guillemets.
Ce qui compte, c'est aussi les appréciations, qu'est-ce qui a été réussi, qu'est-ce qui n'a pas été compris. Si on ne va pas dans le détail, une note, elle ne veut rien dire pour progresser. Donc ça, les parents d'enseignants le savent bien, puisque eux-mêmes sont amenés à évaluer d'autres enfants. Après, je voulais revenir sur la critique. On se rend pas compte, quand on dit du mal d'un enseignant devant l'enfant, qu'on le met dans une situation de conflit de loyauté. Il va passer des heures par semaine avec cet enseignant, et dans sa classe, ce sera l'enseignant le maître. Lui, que cet enseignant n'est pas bon, ça le met dans une situation en fait beaucoup plus compliquée. Donc oui, c'est jamais une bonne idée, même si on n'en pense pas moins et les enseignants n'en pensent pas moins, de formuler des critiques. Et Édouard Philippe n'est pas le seul à le dire dans le livre.
Donc deuxième clé, ne pas critiquer les profs devant vos enfants, même si vous n'en pensez pas moins.
Alors on va juste. Toujours pour les rendez-vous parents-prof, il y avait une enseignante qui nous disait, mais en fait. La plupart des parents lient la valeur de leur enfant à celle de leurs notes. Et donc, quand l'enfant a tendance à sombrer, ils ont tendance à vouloir le défendre. Et elle dit, mais nous, quand on est parents enseignants, on sait très bien que la valeur d'un enfant, c'est pas la valeur de ses notes. Donc, on admet plus facilement qu'on critique notre enfant dans des réunions parents-élèves sans forcément se sentir obligé de devenir son avocat.
Très bien. Alors ça, ça sera un deuxième conseil. On va faire une petite pause musicale. Il y a des appels qui arrivent à notre standard. Je vous invite à appeler. On est en direct 04 95 32 22 22 si vous avez des questions à poser à nos deux expertes du jour. On se retrouve tout de suite après Jennifer, comme c'est bon.
Après quelques années dans le froid, j'irai revoir la mer et regoûter au sel posé sur ta bouche là. Crois-moi ou pas, je t'emmène revoir le ciel pour te chanter au soleil.
Confort comme si vous étiez en apesanteur. Des innovations en avance sur demain. La plus belle façon de conquérir l'espace, c'est avec les vérandas Rénoval. Rénoval, véranda et extension, l'espace s'invente sur Terre. Et du 2 au 27 septembre, la pose est à 1 euro pour les 200 premières vérandas extension Rénoval.
Vous avez plus de 18 ans et vous êtes en tutelle ou curatelle? Vos droits changent. Vous êtes libre de voter aux élections. Vous pouvez aussi vous marier ou vous paxer avec la personne que vous aimez, simplement en informant votre tuteur ou curateur. Parlez-en à vos proches. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur justice.fr.
Midi Minou, dit l'émission politique de RCFM revient. Premier invité, Jean-Félix Acquaviva, député nationaliste de Haute-Corse, secrétaire général de FEMOA-Gourse, également président du comité de Massif. Au sommaire, retour sur la visite de Jacqueline Gourault, la réforme constitutionnelle ou encore les municipales. Midi Minou, dit c'est désormais tous les lundis de 12h10 à 12h30 sur RCFM.
Da Bougougna à Oletta, da Figari à Maginaggio, RCFM, insieme siamo.
La météo avec Hertz Utilitaire. Location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
Aujourd'hui, le temps est sec avec un soleil qui brille toute la journée. Tout au plus, quelques nuages apparaissent en fin d'après-midi sur la région ajaxienne. Jusqu'en milieu d'après-midi, vent d'ouest à nord-ouest, assez fort à fort sur l'extrême sud. Atténuation ensuite, rafale atteignant 75 km/h. Température maximale voisine de 20 à 23 degrés et 17 degrés sur le relief. Ces températures sont localement très au-dessous des valeurs de saison. RCFM, il est 10h.
Plus de temps. RCFM è più belle canzoni corse. RCFM insieme si muove.
Bleu, RCFM.
RCFM, il est 10h et c'est l'heure de votre flash info avec Didier Arnaud. Bonjour Didier.
Bonjour. Et on débute avec cette semaine déterminante pour Agnès Buzyn et pour les services d'urgence. Embourbés dans une crise depuis maintenant 6 mois, la ministre de la Santé doit annoncer de nouvelles mesures cet après-midi. Un plan d'action pour la refondation des urgences. 249 sites étaient en grève vendredi, tout en continuant bien sûr d'assurer les soins. Et parmi eux, le service des urgences de Bastia. Des urgences bastiaises qui pourraient être rejointes dans la grève d'ici peu par le SAMU de la Haute-Corse, faute de médecins. Ce SAMU ne tourne plus qu'avec une seule équipe de nuit, au lieu de deux depuis le 2 septembre. Et c'est aussi le cas en journée pour la moitié du mois, voire en octobre. Une situation d'une extrême gravité, selon les personnels du SAMU, car elle fait planer un danger pour la population du Grand Bastia en raison des difficultés d'organisation et de réactivité. 2000 m2 brûlés hier à Spelonkat, aux 2 hectares à Aguion, 7 hectares à Aulette hier soir, 1 hectare et demi à brûler à Linguit-7, à Prudence aujourd'hui encore puisque la Corse reste en vigilance jaune pour le vent. Antoine Pietri reprend sa grève de la faim et de la soif. Il l'avait entamée au début du mois d'août avant d'être hospitalisé et de l'arrêter au bout de 6 jours. Antoine Pietri est mis en examen dans le cadre de l'assassinat de Patrick Julien à Sautz en novembre 2017. En prison depuis près de 21 mois, il ne cesse de clamer son innocence et pour s'opposer au rejet de ses multiples demandes de remise en liberté conditionnelle que ce berger avait entamé cette action. Depuis, nous n'avons pour seule réponse à nos nouvelles demandes d'acte auprès de la juge d'instruction la clôture de l'information judiciaire, indique son avocate.
Merci Didier. Et on va...
Mamie, tu veux voir mon beau dessin ?
Oui, j'aimerais bien. Mais là, il faut que tu me passes mes lunettes.
Mieux voir, c'est important. Comme mieux entendre, mieux sourire aussi. Et c'est pour ça que Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale, va pour vous plus loin. Optique, audition, dentaire, avec sa garantie santé Protect Via, ses services et tous ses ateliers prévention, Via Santé fait toujours mieux pour votre santé. Et en plus, en ce moment, pour toute nouvelle adhésion, 3 mois offerts sur votre garantie santé, selon conditions.
Plus d'informations sur viasanté.fr.
France Bleu et Notre Temps, le magazine qui vous informe sur votre santé, votre argent, vos droits, mais aussi les loisirs et la culture, se retrouve pour Évasion en France. Tous les mois, Notre Temps invite une personnalité à partager les bons plans et adresses de sa région préférée. Le formidable comédien Bernard Lecoq nous entraîne à Paris, à la découverte de son 17e arrondissement. De l'Arc de Triomphe au marché Poncelet, un beau quartier doté d'un superbe patrimoine architectural, mais aussi d'une âme populaire. Tous les mois, Évasion en France. Dans Notre Temps, un coup de cœur à retrouver sur France Bleu.
Alors, Chantal là-dessous, quel est le secret de votre bonne humeur hein ?
Chez moi, c'est naturel, je suis parfait, je n'y peux rien.
C'est vrai ?
Non, en vrai, quand j'ai un coup de mou, je vais dans ma véranda à Kenna et là, j'oublie tout. Au revoir la grisaille, ma véranda à Kenna, c'est mon oasis de bonheur, ma bulle de douceur. Mais ne le répétez pas, hein, on va me prendre pour une cinglée. À Kenna, la reine des vérandas et des pergolas.
France Bleu, RCFM.
France Bleu. RCFM, Christina Loudzi, les experts.
Alors aujourd'hui, on parle réussite scolaire avec deux journalistes, Guillaumette Faure et Louise Touré. Louise qui nous a quitté à 10h, hein, mais qui était avec nous jusqu'à 10h. Hein. Voilà. Alors pourquoi les fils et les filles de profs redoublent moins, performent plus et étudient plus longtemps ? C'est un phénomène enfin décrypté dans un livre. est paru aux éditions Les Arènes. Pourquoi les enfants de profs réussissent-ils mieux leurs études? Et on va essayer et tenter de vous donner toutes les clés de cette réussite scolaire si vous n'êtes pas prof, pour que vos enfants puissent réussir. Je suis en compagnie de Guillaumette Faure. Guillaumette, vous êtes toujours là?
Oui.
Alors, on a donné quelques clés hein, dans cette première partie d'émission. On va poursuivre. On avait une auditrice. Ah non, ça a coupé. Bon, elle va certainement rappeler. Martine, si vous nous écoutez, vous pouvez rappeler. On va vous prendre à l'antenne. Alors, on disait tout à l'heure que finalement, ce que défendent les parents enseignants, c'était un petit peu les valeurs traditionnelles, le travail, la persévérance, c'est un petit peu des valeurs communes.
Oui, alors, je vais finir. Tout à l'heure, on avait commencé à parler des notes.
Oui, ah oui, c'est vrai.
On a un des profs qui nous dit, mais par exemple, un 13, il y a plein de façons d'avoir 13. On peut avoir 13 parce qu'on s'est bien rédigé, mais on n'a pas bien compris, ou ça peut être l'inverse. Donc, il nous expliquait que c'est pour ça qu'eux ne faisaient pas particulièrement attention à la note. Et puis même, on peut avoir compris quelque chose et quand même rater une évaluation. Donc c'est pour ça que eux nous disaient qu'eux faisaient plus attention à demander à leur enfant s'il avait compris ou pas, et à leur attitude par rapport au travail, même à l'évaluation elle-même, qu'à la note. Ils s'obsèdent beaucoup moins de la note, et ils s'obsèdent d'une manière générale moins aussi des notes, parce que comme ils nous l'ont expliqué, c'est que dans leur classe, ils voient toutes sortes de trajectoires possibles. Donc, ils sont moins anxieux, ils mettent moins des étiquettes sur les enfants, parce qu'ils savent très bien que quelqu'un qui a eu un mauvais début d'année pour avoir une bonne fin d'année. Enfin, il y a eu aussi une étude qui montre que les parents profs parlent beaucoup moins de l'école, de leur avenir scolaire à leurs enfants. Le côté
qu'est-ce que tu veux faire plus tard,
tu rentreras pas dans telle école, tu rentreras pas telle filière, etc. L'idée de quand on apprend pour le plaisir, on n'est pas obligé d'avoir un espèce de climat d'inquiétude sur l'école en laissant penser qu'il n'y a qu'une seule façon de réussir possible.
Bon, il y a un grand débat, hein, pardon, je vous coupe, mais sur les notes, etc., on va plus noter. Mais c'est quand même bon de noter les élèves, parce qu'il y a quand même cet esprit de compétitivité qu'il faut leur donner quand même. Enfin, je parle pour moi, hein, mais c'était motivant de se dire j'ai une bonne note, j'ai une meilleure note qu'eux.
Non, je pense que, alors, de toute façon, les enfants, même quand ils sont pas, même dans les écoles où ils ne sont pas notés, ils peuvent pas s'empêcher de comparer le nombre d'erreurs qu'ils ont faites les uns avec les autres. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu naturel. Mais je pense que par exemple, enfin, pour les notes comme pour les devoirs, on avait une enseignante de primaire qui nous disait, mais moi, la raison pour laquelle je donne des devoirs, c'est pour rassurer les parents. Et je pense que les notes, parfois, c'est un peu pareil. C'est aussi pour rassurer les parents. Mais ce qu'une autre enseignante de lycée nous disait, elle disait, pour beaucoup de parents, la note, c'est la fin de la séquence. C'est-à-dire, comme après une course à pied, comme on aurait réussi, vous avez mis 58 minutes. Bon, alors qu'elle disait, pour les enseignants, la note, c'est le début de la réflexion sur où est-ce qu'en est l'enfant. Donc, c'est pas juste le fait de noter ou pas noter, c'est quelle place on va accorder à cette note. Et puis comme les profs, ils parlent le langage prof, c'est-à-dire qu'ils savent aussi décoder les évaluations. Comme il y en a un qui nous dit, quand on lit par exemple problème de comportement à améliorer ou quelque chose comme ça, on comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave à l'école et on cherche à en savoir plus.
Et on critique surtout pas le prof.
Le parent pas prof, il va pas forcément décoder au-delà de l'évaluation.
Alors, on va continuer à parler des devoirs, hein, mais on a un appel. Jean, bonjour. Jean, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour Jean.
Oui, bonjour.
Alors, vous nous appelez de Calvi, vous avez une question pour Guillemette.
Non, c'est pas une question, c'est pour réagir. Moi, ma femme est prof. Et pour réagir sur l'éducation, en fait, avec quand on a une prof à la maison, tout est sujet à apprentissage. Je pense que l'avantage se donne là. Mm-hmm. Ma femme me donne une curiosité à mes enfants pour apprendre. Et vu qu'à 2 ans et demi, elle comptait déjà. Moi qui suis plutôt un cancre à l'école. Donc,
moi aussi, ma fille a 2 ans et demi, je suis pas prof et elle compte et elle récite l'alphabet. Hein.
Alors, je vois autour de moi, mes amis, c'est pas le cas de tout le monde. Je souligne que c'est en les stimulant, bien sûr. Alors que moi, j'aurais peut-être pas pensé à les stimuler autant. Parce que je vois les enfants de mes amis n'ont pas la même réactivité, ni comptent correctement, ni récitent l'alphabet. Et pourtant, ils ont le même âge, ou des fois, ils sont même un peu plus grands. Je pense que c'est surtout une question d'éducation plus que de capacité.
Non, mais tout à fait. Je pense que. Mais aujourd'hui, c'est de la facilité. Hein. On les met devant un écran et puis on va qu'à ses occupations. L'enfant est sage. Hein. Effectivement. Ouais. Mais ça prend plus de temps de raconter une histoire ou de se mettre à côté et de lui apprendre certaines choses. Bon, après, il y a aussi, je pense, Guillemette peut nous le dire, mais il y a aussi, je pense, la prédisposition. Alors, je sais que vous n'êtes pas trop d'accord avec ça, hein, Guillemette, dans le livre, on le lit. Mais il y a quand même une prédisposition de l'enfant aussi.
Non, mais la remarque de Jean, c'est celle qu'on a le plus souvent entendue, c'est effectivement que le temps passé ensemble et le temps libre sert beaucoup plus souvent à apprendre. Et ça va être et effectivement, dès 2 ans et demi, par exemple, on a une enseignante de maternelle qui nous dit que elle peut pas s'empêcher quand un enfant utilise le mauvais mot, elle lui dit pas que c'est faux. Mais elle le réemploie correctement juste après devant lui pour qu'il l'entende. Donc c'est des petits détails auxquels il pense. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la recette de cuisine. Ça peut être cherche quelque chose sur une carte. Ça veut dire à ton avis si on roule à 100 km/h on y arrive dans combien de temps. Enfin c'est tout.
Il y a tout qui est matière à apprentissage en fait.
Ouais et effectivement être conscient que finalement l'enfant est avec nous beaucoup plus souvent qu'il n'est à l'école. Et puis justement, par rapport au fait, je pense que le fait que les enseignants aient du temps avec leurs enfants fait qu'ils n'ont pas mauvaise conscience et que du coup, quand arrive le week-end ou les vacances, ils ne s'en sentent pas obligés de se rattraper en offrant forcément des loisirs qui soient que, je sais pas, des parcs d'attractions. Enfin, que ils ne pensent pas que le temps libre ne sert forcément que qu'à s'amuser. En fait, que on peut s'amuser pendant le temps scolaire et on peut apprendre pendant le temps libre. C'est une vision beaucoup moins séparée des deux temps que nous, parents non profs, on peut avoir.
Oui. Alors, merci Jean pour votre témoignage. Il y a Martine qui nous a rappelé. Martine, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, bonjour, mesdames.
Martine, vous aviez un témoignage ou une question?
Je voudrais soulever un cas. Une petite fille qui est en primaire, qui travaille très bien, mais qui refuse de s'exprimer devant la classe, devant tout le monde.
Ah, on va en parler demain, ça.
Vous allez en parler demain?
On va en parler demain, mais peut-être que Guillaumette, vous voulez réagir là-dessus?
Pardon, j'entends très mal, ça résonne.
Moi, ce qui m'a frappé là-dessus, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les enseignants sont conscients que toutes les trajectoires sont possibles, parce qu'eux, ils ont vu passer énormément d'élèves. Donc, ils ont une idée beaucoup moins normative de ce qu'est supposé faire un enfant. C'est-à-dire que ils ont vu des timides devenir extravertis, ils ont vu des enfants qui avaient des difficultés en maths devenir très bons en maths, ils ont vu toutes sortes de parcours. Et donc, je pense qu'ils sont plus ouverts que nous avec les comportements qui peuvent être un peu différents. Et je pense aussi les programmes scolaires, ils n'ont pas arrêté de changer d'année en année. Donc, quelqu'un qui a été enseignant pendant 10, 20, 30 ans, il ne va pas se dire, tiens, la table de 5, il faut la savoir à la fin de CE1, etc. Enfin, il va être beaucoup plus ouvert à l'idée qu'un enfant peut être très avancé dans tel domaine et moins dans l'autre. Enfin, il y a une idée beaucoup moins normative de ce qu'on est supposé savoir et ce qu'on est supposé faire à quelle époque de sa vie.
Mais Martine, je vous invite vraiment, parce que c'était peut-être une partie de votre réponse, mais je vous invite vraiment à écouter notre émission de demain, puisqu'on sera en direct avec Brigitte Pro, qui est pédopsie, et elle pourra certainement répondre à votre question.
Oui, et c'est à quelle heure demain, la même
9h30, 10h30.
D'accord.
Voilà, donc si vous voulez nous rappeler demain, comme ça, je pense qu'elle pourra vous donner des clés, du moins, peut-être des explications.
Très bien, je vous remercie.
Merci Martine.
Voilà, au revoir.
Au revoir. Alors, on va poursuivre, hein. Guillemette, vous parliez des devoirs tout à l'heure. Alors, vous disiez qu'il y a des profs qui donnaient des devoirs pour rassurer les parents. On en donne. Les devoirs sont interdits, hein, aujourd'hui, depuis quelques années maintenant.
Depuis 1956. Depuis 1956, les devoirs sont interdits. Depuis 1956, on continue à en donner.
On continue à en donner. Mais vous disiez que c'était pour rassurer les parents, je rebondis, hein, ce que vous disiez tout à l'heure.
Mais je veux pas généraliser pour tous les enseignants, parce que de temps en temps, c'est aussi pour apprendre aux enfants à développer une routine de travail, pour apprendre à faire, pour créer un lien entre la maison et l'école.
Je rebondis sur ce que vous disiez, ce que disait Jean. C'est peut-être aussi pour recréer ce lien enfant-parent qu'il n'y a plus forcément à la maison, parce que, comme le disait très justement Jean, il y a beaucoup de parents aujourd'hui, les enfants, quand ils les récupèrent, ils ont tellement plus le temps de rien, parce que justement, on a le ménage, on a les courses, on a à faire à manger, on les fout devant un écran et on va qu'à nos occupations. Comme vous le dites, c'est 15...
intéressant sur les écrans, parce que ça, c'est un thème qui est venu très souvent, c'est que les enfants de profs ont plutôt moins d'écran que les autres, pour plein de raisons. Une des raisons, c'est que les enseignants eux-mêmes, c'est un des métiers où vous pouvez pas avoir un écran, vous pouvez pas aller distribuer des likes sur Facebook tout en faisant la classe. Donc, par rapport à d'autres professions, ils sont beaucoup moins distraits par les écrans que d'autres.
Bon, comme community manager, par exemple.
On a vu des gens qui surveillaient les examens avec un smartphone à la main, mais d'une manière générale, ils sont quand même beaucoup moins sur les écrans. Et en plus, eux, ils sont plus exposés aux ravages que ça peut provoquer. C'est-à-dire qu'ils voient tous les enfants qui dorment le matin. Donc, ils vont être beaucoup plus vigilants chez eux. Et puis, les enfants, ils ont tendance, pour demander un smartphone à partir de la fin du primaire, à dire « mais dans ma classe, tout le monde en a ». Et en fait, les enseignants, ils voient que d'abord, un, tout le monde n'en a pas forcément un, donc ils sont beaucoup plus résistants à cet argument. Et deux, ils voient aussi que des parents peuvent tous faire quelque chose qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc, ils sont beaucoup plus, beaucoup plus résistants sur cette question-là, quoi.
Mais alors, justement, il y a une petite ambiguïté, parce que les parents profs, ils ont tous ces avantages, de pouvoir donner une bonne scolarité à leurs enfants et faire en sorte qu'ils réussissent. Et malgré tout, ils vous disent que ils souhaitent pas que leurs enfants soient enseignants. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction quand même?
Non, c'est-à-dire que les parents profs qu'on a rencontrés sont énormément convaincus des vertus de l'éducation, et y compris parfois, pour dire, en éducation c'est important, justement, comme ça tu pourras faire autre chose qu'être prof. C'est-à-dire que comme ils souffrent quand même beaucoup du déclassement de leur profession dans la société, justement parce que nous, les parents profs, on met tout sur l'école, on attend tout en matière d'éducation de l'école, donc du coup ils sont beaucoup plus critiqués. Ils sont plutôt déclassés socialement. Donc moi, nous, quand on a parlé de ce sujet, il y a des gens qui nous disent « Ah oui, l'élite, ben non, c'est l'enseignement, c'est une profession dans laquelle on commence à 1600 euros net par mois, on peut pas en parler comme des élites. » Donc il y a des parents enseignants qui peuvent vouloir éviter cette vie-là, même s'ils adorent leur métier, à leurs enfants.
Tout à l'heure, on parlait, je reviens dessus, des fréquentations, de la réputation d'un établissement. On voit dans votre livre que les profs, ils cherchent plutôt à vérifier que leur enfant soit bien dirigé et que les classes ne soient pas surchargées. Alors là encore, est-ce qu'on voit aujourd'hui le nombre d'élèves par classe? Est-ce qu'on peut se demander si le fait de connaître un petit peu les arcanes de l'éducation nationale constitue aussi un avantage pour ces parents profs?
En fait,
parce qu'aujourd'hui,
ce qui est assez marrant, c'est que les profs, les enfants profs, comme le dessinateur de bande dessinée Jules, qui a dessiné dans L'Étudiant, nous disait en rigolant, mais moi, quand j'étais jeune, je lisais pas L'Étudiant, parce que les enfants profs, ça lit pas L'Étudiant, parce que c'est pas là-dedans qu'on cherche les informations sur son avenir scolaire. Et je crois que l'impression qu'on a, c'est que les enseignants sont déjà très consultés par les parents qui leur demandent des conseils, donc ils sont obligés de s'informer en permanence. Mmh. Mais je pense qu'il y a une étude, par exemple, qui compare les critères de choix des écoles chez les parents cadres et chez les parents enseignants. Et les parents cadres sont très attentifs à des questions comme la réputation de l'école, la sécurité, enfin, je vais dire un peu l'image extérieure de l'école. Et quand ils vont chercher un rendez-vous, ils vont chercher à parler au directeur ou à la personne un peu la plus élevée possible dans l'école. Alors que les parents enseignants, eux, s'intéressent plus à l'offre pédagogique elle-même, c'est-à-dire quelles sont les options possibles, combien il y a d'élèves par classe, enfin plus à l'école dans ce qu'elle se vit au quotidien. On a des parents profs qui nous disent « Moi, pour aller visiter une école, j'y vais pas le jour de la journée porte ouverte, parce que je sais que tout le monde s'est mis sur 131 et que c'est pas une école qui fonctionne normalement, j'essaye de passer un jour ordinaire. » Et ils vont chercher à parler plus aux enseignants qui sont au quotidien en contact avec les élèves que forcément à essayer d'avoir comme interlocuteur la personne la plus gradée de l'école, j'allais dire.
Oui, bien sûr. Mais non, mais c'est vrai que je disais qu'aujourd'hui, les classes, elles sont tellement surchargées que de fait d'être un petit peu dans l'éducation nationale, c'est quand même un avantage pour choisir l'école de son enfant.
Non, je pense que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne choisissent pas forcément. Ils font plutôt moins de gymnastique que, par exemple, les parents cadres pour aller chercher une école loin de celle sur laquelle ils sont sectorisés. Mais par contre, au sein de l'école dans laquelle leur enfant va être affecté, ils vont vite se renseigner sur quelles sont les options les plus intéressantes qui permettent d'être avec dans les classes des meilleurs élèves. On a un enfant prof qui nous a dit en rigolant « Le comble de la rébellion pour un enfant de prof, c'est d'arrêter le latin en première ». Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que les enfants de profs sont surreprésentés dans les allemands première langue, dans les classes de latin, enfin dans toutes les options où on va se retrouver avec beaucoup de bons élèves, quoi.
Alors, en lisant votre livre, j'ai un petit peu l'impression qu'on cherche pas à faire, on dirait, l'impossible pour faire entrer son gamin au chausse-pied dans une école où il sera en difficulté, hein, c'est ce qu'on disait. Mais c'est quand même un petit peu caractéristique du modèle français. On n'aime pas trop ce qui sort du moule.
On n'aime pas trop, pardon ?
Ce qui sort du moule. On essaye vraiment de faire entrer tous les enfants dans le même moule, alors que...
Mais je pense que, justement, les profs ont une vision beaucoup plus large parce que justement ils ont dans leur classe sur 30 enfants ils ont tous les comportements possibles, alors que nous c'est un des arguments qu'on nous a donné aussi sur pourquoi ça se passait mieux à la maison, c'est-à-dire que eux avec ce qu'ils entendent toute la journée pour péter les plombs, il en faut un peu plus que pour nous parents. Et l'autre chose qui me semble très importante justement par rapport à la question des classes surchargées, c'est la question de l'autonomie, qui est un truc qui est très valorisé aujourd'hui par le modèle Montessori. Mm-hmm. Mais nous, quand on est parents, on a tendance à, surtout quand on est pressé par le temps, à faire plein de choses nous-mêmes. Par exemple, mettre les chaussures de l'enfant parce que ça va plus vite que de lui apprendre à faire ses lacets, alors que les enquêtes montrent que sur les, entre guillemets, ce qu'on appelait autrefois les corvées, enfin l'aide à la maison, les enfants en font quand même très peu aujourd'hui. Or, ça se passe pas comme ça chez les parents profs, parce qu'avec l'organisation de leur classe, ils sont habitués à faire appel aux enfants. C'est-à-dire que si vous voulez distribuer des copies dans une classe de 30 personnes ou ramasser des cahiers, etc., vous êtes en permanence en train de leur demander de l'aide. Donc, ce qui est une organisation qu'on retrouve un peu chez eux, où les enfants sont beaucoup plus souvent sollicités et ont beaucoup plus d'autonomie que ce que nous, on va faire avec nos enfants, où on a tendance à tout faire pour eux.
Il y a autre chose qui m'a frappé dans votre livre, Guillemette, c'est vous montrez bien que quand le professeur dit en classe il faut revoir telle chose, vous dites que pour la plupart des parents, il manque quelque part le mode d'emploi.
Oui.
Alors, est-ce que savoir apprendre une leçon, par exemple, ça reste quelque part un délit d'initié, hein.
Mais ça, c'est un des effets qui nous rend plus heureuses de ce livre, c'est qu'on a eu aussi des enseignants qui nous ont dit qu'ils avaient envie de discuter entre enseignants de est-ce qu'ils donnaient suffisamment de mode d'emploi à leurs élèves. C'est-à-dire que comme les enseignants, c'est une des professions où on se voit le plus entre gens de la même profession. Ils peuvent oublier assez facilement que ça se passe pas, dans les autres familles, on va pas avoir les mêmes points de repère. Et dire à un enfant, revoir telle leçon pour mardi, relire telle chose, apprendre telle chose, réviser telle chose, sont des mots derrière, qui arrivent sans aucun mode d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Comment on apprend une leçon de géographie?
Oui, c'est ça.
Je dis histoire et géographie parce que c'est là où il y a le plus de besoin de par cœur. Et donc, les enseignants, nous donnent des trucs qu'ils donnent à leurs enfants, c'est-à-dire tu vas commencer par fermer ton livre et dire tout ce que tu sais sur tel sujet. Après, tu imagines que tu l'expliques à quelqu'un. Ensuite, avant une évaluation, tu te demandes si tu étais ton prof, à quoi tu accorderais de l'importance? Qu'est-ce que tu voudrais que la personne sache? Là encore, ça c'est Cédric Villani, c'est aussi quelque chose qui dit, c'est-à-dire qu'on apprend en apprenant à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est... les enseignants ne se rendent pas forcément compte qu'il y a que c'est, les consignes de travail arrivent chez eux avec un mode d'emploi qui n'est pas toujours là dans les autres familles.
Voilà, donc il y a vraiment vous mettez vraiment en valeur ces ambiguïtés hein, entre les consignes données par l'école, ce qui est reçu par les parents. C'est vraiment un encouragement du coup à donner des modes d'emploi plus explicites aux enseignants.
Oui, c'est-à-dire que les profs nous disent, l'autonomie c'est important, on a besoin que les enfants fassent leurs devoirs seuls pour voir où ils en sont.
Oui, mais voilà, eux, donc c'est un petit peu ambigu quand même.
Eux, ils disent ça, eux, leurs enfants, quand leurs enfants sont seuls sur leurs devoirs, eux sont dans la pièce à côté. Et donc, d'abord, ça va un peu transmettre une routine de travail, et puis ça permet de jeter un œil, et puis de répondre à une question, et puis de dire, va donc chercher à tel endroit. Donc en fait, cette définition de « il faut le faire tout seul », c'est très différent d'une famille à l'autre.
Oui, donc du coup, enfin, il y a vraiment, enfin, quand un prof donne une leçon à apprendre, il faudrait presque qu'il mette un mode d'emploi avec aux parents pour leur dire comment apprendre.
Que c'est quelque chose auquel on arrive de plus en plus avec les neurosciences. Aujourd'hui, de plus en plus, on commence à apprendre aux enfants comment marche leur cerveau et qu'est-ce qui fait que comment on s'y prend pour apprendre quelque chose, l'importance de la répétition, l'importance du sommeil. Enfin, il y a
Oui, parce que c'est quand même
le mot révision. On a un prof de Dreux dont les parents n'étaient pas profs qui nous disait, mais nous, mon père me disait m'envoyer dans ma chambre pendant une heure en me disant va apprendre telle leçon, et qui ne savait pas comment on faisait pour apprendre quelque chose.
Oui, voilà. Non, mais donc quelque part, on revient sur ce qu'on disait au début. C'est vraiment mettre l'accent sur la qualité du lien avec l'école, d'être vraiment un lien fort, je dirais, pour pouvoir avoir toutes les clés. Peut-être que les parents doivent aussi renforcer ce lien, justement, pour apprendre, pour avoir ces modes d'emploi quelque part.
Oui. Et puis, effectivement, et ça va dépendre aussi de la posture dans laquelle on rencontre les enseignants de ces enfants. Ça va aussi du coup beaucoup jouer.
Il y aurait tellement à dire. Alors, si on devait donner 5 clés, hein, Guillaume, maintenant, à nos auditeurs, vraiment pour réussir, si on devait résumer, donner 5 clés, ou 3 ou 5, hein, comme vous voulez, pour ceux qui n'auraient pas des parents professeurs et qui voudraient réussir aussi.
Alors, moi, je dirais déjà arrêter les cours particuliers. être moins hystérique sur l'école et se dire que on fait confiance à l'école, mais s'occuper soit de la part, enfin, de tout ce qu'on peut transmettre pendant les journées qu'on a avec ses enfants, ce qui ne veut pas forcément dire leur faire la classe, mais d'utiliser le quotidien pour les éveiller. Je dirais aussi de pas se sentir obligé de faire comme les autres. Donc là, on n'en a pas parlé, mais par exemple, les enseignants, ils parlent aussi de la surenchère sur les anniversaires ou des choses comme ça, où en fait, eux, ils ne rentrent pas dans ces trucs-là et ils se croient pas obligés d'écouter les enfants qui disent on veut faire comme tout le monde. Qu'est-ce qui me vient aussi à l'esprit, je pense que la question de temps en temps du sommeil, effectivement,
oui, très important.
De se coucher plus tôt, on n'en a pas parlé. Ça, c'est un truc dont ils ont aussi beaucoup parlé.
Oui. Sans écran, se coucher tôt avec un livre plutôt qu'avec une tablette ou un smartphone.
En fait, à chaque fois qu'on se pose des questions sur qu'est-ce qui pourrait, ça, comment on pourrait... Ah oui, et puis bien sûr, oui, ce qu'on disait aussi en début d'émission, c'est-à-dire...
Ne pas critiquer les profs.
Ne pas dire du mal de l'école et des enseignants devant ses enfants.
Voilà.
Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas le droit d'en penser, mais...
Oui, tout à fait.
Mais si on veut qu'il adhère à l'idée de s'éduquer, ce qui est assez important, c'est de lui faire comprendre que c'est lui qui en est responsable de son éducation et qui va faire avec... il va essayer de se débrouiller pendant toute sa vie avec les occasions qu'il aura et les personnes qu'il a en face de lui, qu'il ne pourra pas choisir. On ne peut pas choisir ses enseignants, comme on ne peut pas choisir plus tard ses collègues de travail.
Donc
ça, c'est absolument improductif que de dézinguer le prof, surtout devant son enfant.
Bon, alors ça, c'était quelques clés, hein, pourquoi les enfants de profs réussissent-ils mieux, aux éditions Les Arènes, Guillaume Etfour et Laure Touré. Donc c'est un livre vraiment contre-intuitif, hein, qui a le mérite de livrer des clés pleines de bon sens. On vous en a livré quelques-unes, mais vraiment, je vous invite à lire ce livre. Un tome 2 peut-être, les filles, pour explorer plus en avant les particularités et nous aider par exemple à comprendre pourquoi un enfant de mère enseignante réussit mieux qu'un enfant de père enseignant.
Non, mais c'est vrai que non, quand on nous dit mais la définition de la réussite, c'est c'est très limité. C'est vrai qu'on rigole toujours en disant non, non, mais après, le bien-être, ce sera le deuxième.
Non, mais je me suis dit peut-être un tome 2.
C'est une plaisanterie. Voilà.
Merci beaucoup Guillaumette et merci à vous de nous avoir suivis et d'avoir témoigné. On se retrouvera demain dans Les Experts, on est ensemble jusqu'à 11h, hein, mais demain dans Les Experts, on va parler motivation, comment motiver ses enfants et ses ados. Je vous invite à m'envoyer toutes vos questions, vos témoignages sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM et à nous appeler demain au 04 95 32 22 22. Je le dis chaque fois, mais appelez vraiment en début d'émission, hein, parce que quand vous appelez en fin d'émission, on peut pas tous vous prendre. Voilà, on va poursuivre, on reste ensemble jusqu'à 11h. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après.